Bonjour Guillaume, bonjour à tous. On parle souvent de la cyberguerre du point de vue technique et rarement du point de vue du droit. Il y a quelques jours, le site Regards sur le numérique interrogeait longuement sur ces questions David Martinon. Ah, on se souvient de David Martinon, un des Sarkoboys propulsé porte-parole de l'Elysée en 2007, puis candidat malheureux à la mairie de Neuilly. Martinon, non, non, avaient dit les Neuillois en révolte. Évacué au consulat général à Los Angeles, il s'est vu attribuer sous la présidence de François Hollande en mai 2013 le poste d'ambassadeur français pour la cyberdiplomatie. Que fait un ambassadeur français pour la cyberdiplomatie? Dans cet entretien, David Martinon y répond très concrètement. Par exemple, au sujet du travail qu'il mène à l'ONU. Je le cite. Les discussions que nous avons à l'ONU se concentrent sur l'applicabilité du droit international public au cyberespace. Par exemple, nous voulons voir pleinement reconnu le fait qu'en temps de guerre comme en temps de paix, les cyberattaques peuvent donner lieu à des contre-mesures ou des mesures de rétorsion. En d'autres termes, l'article 51 de la Charte des Nations Unies doit être appliqué. Toute agression donne droit à la légitime défense et peut donc entraîner des représailles à la hauteur de l'agression. Il y a deux manières de lire ces propos, me semble-t-il. La manière optimiste, consistant à considérer qu'il est intéressant que les membres de l'ONU réfléchissent à la manière de faire entrer le cyberespace dans le droit international. La seconde manière de les lire est un peu plus étonnée et pourrait se formuler comme suit. Ça fait quand même des années. Au moins depuis l'attaque de l'internet estonien par les Russes en 2007 et jusqu'aux derniers événements en France, que des pays s'attaquent les uns les autres dans le cyberespace et le droit international en est encore à se demander dans quel cadre juridique on peut y répondre. Non mais c'est dingue. En même temps, appliquer le droit international au cyberespace est, paraît-il, d'une grande complexité. Je me souviens avoir interrogé sur ces questions Bertrand de la Chapelle, qui avait été ambassadeur de la France pour la gouvernance de l'internet à la fin des années 2000. Et Bertrand de la Chapelle m'avait expliqué qu'en gros, il fallait faire faire au droit international la même révolution qu'il avait fait en 1648, quand le traité de Westphalie avait érigé l'État-nation souverain comme socle du droit international. C'était à l'époque mettre fin à la loi du plus fort qui avait prévalu jusque-là. Ce principe, donc, est toujours en vigueur dans le droit international, mais il se heurte aux spécificités du cyberespace qui, m'expliquait toujours Bertrand de la Chapelle, ajoute une nouvelle dimension au droit. Car n'ayant plus de rapport avec le territoire, alors que le traité de Westphalie associait une juridiction à un territoire, le cyberespace nécessite une sorte de droit international en 3D. Et cela pose manifestement plein de questions très compliquées. Bref, on comprend peut-être mieux alors que l'on soit encore à l'ONU en être à discuter sur une question aussi évidente que comment un pays a-t-il le droit de répondre à une cyberattaque. Mais là où on s'aperçoit que le droit international en est encore à ses balbutiements en matière numérique, c'est quand David Martinon donne l'exemple d'un dossier sur lequel la France est particulièrement impliquée dans ses négociations. La question des armes de cyberguerre. Car comme il y a des armes matérielles, des avions, des missiles, etc., il y a aussi des armes informatiques, des programmes. La France voudrait que ces armes informatiques soient interdites ou tout au moins réglementées très fortement quant à leur circulation. Mais plus compliqué, il y a aussi ce qu'on appelle les biens à double usage. C'est-à-dire une technologie qui, comme le nucléaire par exemple, peut avoir un usage civil ou militaire. La France voudrait que soit inscrit le principe de non-prolifération de ce type de biens dans le cyberespace. Alors, si je vois bien comment le droit international peut inscrire ce principe, je vois beaucoup plus mal ou difficilement comment le droit pourrait définir ce qu'est un bien à double usage en matière informatique, tant il me semble qu'un programme informatique a une aptitude à se transformer en arme à peu près aussi rapide qu'un être humain. Et qu'il faudra donc, et qu'il aura encore plus cette aptitude avec les progrès de l'intelligence artificielle. Or, il me semble que le principe de non-prolifération de ce bien à double usage qu'est l'être humain ne soit pas inscrit en droit international, nous proliférons beaucoup. Bref, en lisant David Martinon, je me suis dit que la cyberdiplomatie avait encore de beaux jours devant elle, et nous autres qui essayons de la comprendre, des années de prise de tête.